franceinter.fr.
Voici venue la nanoconstruction de précision. C'est une discipline qui pourrait révolutionner bien des domaines. Cette semaine, la revue Nature publie simultanément 4 articles émanant de plusieurs équipes dans le monde qui démontrent les étonnantes possibilités justement offertes par la nanoconstruction à base d'ADN. Ici, un petit ourson, vous le disiez, Axel, tout à l'heure, un sablier ou encore le visage de la Joconde. Le tout 1 million de fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. Et c'est un exploit technique et technologique que nous commentons avec notre invité, Axel.
Oui, pour en parler, on est en direct de France Bleu Héros avec Gaëtan Bello. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous êtes biophysicien pour l'INSERM à l'Institut Génomique Fonctionnel à Montpellier. Vous êtes le seul chercheur français à travailler sur ce domaine des nanoblocs d'ADN. Est-ce qu'on peut résumer en disant que vous jouez au Lego avec de l'ADN ?
Oui, voilà, on peut essayer de vulgariser ça comme ça en disant que on fait de la construction à partir comme du Lego, le même principe. Physique, on emboîte des briques de Lego. Donc nous, c'est les briques d'ADN,
d'accord,
qui miment la forme d'un Lego pour faire de la construction en 3D à l'échelle du nanomètre. Voilà.
Parce qu'on entend beaucoup parler de nanotechnologie avec du carbone, avec des nanotubes, mais c'est la balle d'ADN, on en entend très peu parler. Ça fait longtemps que ça existe ?
Alors, oui, c'est vrai que quand on parle de nanotechnologie, souvent on fait référence aux nanotechnologies à base de carbone, ce qui est une des premiers types de nanotechnologies qui ont émergé dans les années 90. Du coup, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup plus, alors que les nanotechnologies à base d'ADN sont beaucoup plus récentes. On va dire que c'est début 2000, où il y a eu les premières études faites où on utilise l'ADN comme matériau pour construire des petits objets à l'échelle du nanomètre.
Combien de briques d'ADN dans les objets que vous créez ?
Donc là, on va dire le gap technologique sur cette étude, c'est le nombre de briques de molécules, du nombre de molécules qu'on utilise pour former les objets. Et là, on arrive à 30 000 molécules uniques qui sont auto-assemblées pour faire un objet en 3 dimensions.
Ça veut dire que ce n'est pas vous qui assemblez les 30 000 à la main ?
Non, ça c'est le gros avantage des nanotechnologies d'auto-assemblage. C'est-à-dire que le travail est fait par les phénomènes d'auto-assemblage et pas par nous. on peut dire ça comme ça. L'idée, c'est ces 30 000 unités vont trouver leurs partenaires parce qu'elles ont été programmées pour reconnaître chacun des partenaires dans la solution que nous avons, qui contient ces 30 000 unités, et vont s'auto-assembler spontanément par des effets coopératifs dans une forme 3D. Et ça, en quelques heures. Alors, par exemple, si maintenant on prend un baril de Lego, où on met 30 000 petites briques de Lego et qu'on demande à quelqu'un de d'assembler ces 30 000 pièces pour faire un cube, ça va prendre plusieurs mois à temps plein. Donc là, on voit que les phénomènes d'auto-assemblage sont hyper puissants, dans le sens où le temps est considérablement réduit dans la fabrication d'objets. Donc là, cet objet qui est auto-assemblé sera produit en milliards d'exemplaires spontanément.
Alors, expliquez-nous, parce que pour ceux qui découvrent votre domaine de recherche, tout ça paraît un petit peu obscur quand même. À quoi ça sert justement de jouer au Lego nanométrique comme ça ? Qu'est-ce que vous fabriquez ? Parce qu'on parlait des oursons tout à l'heure. D'autres équipes travaillent par exemple sur le visage de la Joconde. Mais ça sert à quoi de fabriquer ces objets à cette échelle-là exactement ?
Donc si... L'idée, c'est dans notre évolution, si on prend un peu de recul par rapport à notre évolution, donc l'évolution humaine, on a commencé par faire des objets plutôt de l'ordre du mètre pour cultiver, pour chasser, et plus au cours du temps, on a de plus en plus miniaturisé les objets qu'on était capable de faire pour faire des moteurs, pour faire des montres avec l'échelle du millimètre. Et jusque dans les années 1900, on est arrivé à l'échelle du micromètre, où là on fait de la microélectronique pour faire des ordinateurs. Donc ça augmente d'un point de vue technologique. en fonction de l'échelle. Et aujourd'hui, le chaînon manquant est entre le micron et l'atome, et c'est le nanomètre. Donc là, aujourd'hui, l'un des gros défis, c'est de pouvoir façonner des outils qui ont une échelle du nanomètre. Et ceci va nous permettre d'étudier, par exemple, des cellules humaines, enfin des cellules en général, parce que nos outils auront une taille comparable à une cellule.
On a souvent parlé de stocker de l'information sous forme d'ADN. C'est un exemple qui marche pour vos travaux ?
Plus ou moins indirectement. C'est sûr que l'ADN en tant que matériau a plusieurs caractéristiques extrêmement intéressantes. D'un point de vue mécanique, déjà, c'est hyper résistant. C'est-à-dire que on peut chauffer l'ADN à plusieurs, au-delà de 100 degrés, et la molécule reste intacte. On peut la mettre sous pression à plusieurs centaines de bars, et la molécule reste aussi intacte. Et au cours du temps, on voit que cette molécule est stable. C'est-à-dire qu'on arrive à retrouver de l'ADN de mammouth fossilisé dans des glaces. Et si maintenant on projette, on vitrifie par exemple une molécule d'ADN dans du verre, son espérance de vie est au-delà de plusieurs millions d'années. Donc ce qui est pour stocker de l'information est un matériau de premier choix. Dans le sens où, aujourd'hui, si on a un DVD, par exemple, on a nos photos sur un DVD qu'on laisse sur la table. D'ici 10-20 ans, le DVD sera obsolète. Alors qu'avec de l'ADN, donc on va devoir restocker ces informations, trouver de l'énergie pour stocker et conserver ces informations pendant de nombreuses années. Alors qu'avec de l'ADN, si on pouvait convertir, et c'est ce qu'il y a... Maintenant, c'est effectif. On peut convertir l'information numérique dans de l'ADN.
Et un secteur très prometteur, puisqu'on le disait tout à l'heure avec Axel, c'est l'objet de 4 publications cette semaine dans Nature, avec très peu d'équipes. Vous êtes, je crois, simplement une dizaine dans le monde entier à travailler, en tout cas, sur ces technologies nanométriques qui vont donner, en tout cas, à l'avenir, beaucoup de perspectives et d'applications. Gaëtan Bello, merci beaucoup pour vos explications. Et merci aux équipes de France Bleu Héros qui nous ont permis ce duplex. Axel, merci. À lundi.
À lundi.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, vers la création d'un office français de l'intégrité scientifique, alors que le monde de la recherche souffre d'une augmentation depuis 10 ans des pratiques douteuses, voire illégales, le Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur met en place des outils de lutte. Un directeur pour le futur office est en cours de recrutement, et lui et ses équipes auront donc la charge de lutter contre la part grandissante de plagiat, de falsification et autres manipulations de la science publiée. Quelle alternative au glyphosate, alors que le gouvernement annonce l'interdiction de l'herbicide d'ici 3 ans, l'Institut national de la recherche agronomique planche sur les alternatives possibles pour les agriculteurs. Dans un rapport rendu cette semaine au gouvernement, les experts montrent que des solutions existent déjà pour détruire les mauvaises herbes sans l'aide de la chimie. Le désherbage mécanique, le recours au labour ou au mulching, cette technique consistant à recouvrir le sol d'un tapis végétal pour étouffer la pousse des plantes non désirées. Mais ils admettent, du côté justement de ce rapport, que pour certains agriculteurs spécialisés, la transition vers une agriculture sans herbicides nécessitera encore des travaux de recherche. Et puis observer des dégâts, des éclipses étudiées dans les yeux, des médecins d'un hôpital new-yorkais spécialisé en ophtalmologie apportent un espoir de traitement contre la rétinopathie solaire aiguë, plus communément appelée aveuglement solaire. Cette pathologie ne possède toujours pas de traitement convaincant. Les chercheurs ont profité de l'éclipse d'août dernier pour tester une technologie de pointe, jusqu'alors jamais utilisée. Elle est appelée l'optique adaptative. Ils publient aujourd'hui la structure microscopique des lésions de l'œil d'une patiente partiellement aveuglée après avoir observé le soleil sans protection. Des résultats nouveaux qui permettront peut-être le développement dans le futur de traitements d'urgence spécifiques pour les lésions solaires de la rétine.